France Inter.
Bienvenue dans La Régulière, l'émission de toutes les cultures. Aujourd'hui, on reçoit une artiste qui a littéralement marqué une génération. Depuis son apparition au début des années 2000, elle a enchaîné les tubes, les tournées, les rôles à la télévision, au cinéma, sur scène. Elle a grandi sous nos yeux, elle n'a jamais vraiment quitté le cœur du public. Cet automne, Laurie est de retour sur scène pour une tournée à guichet fermé dans toute la France avant une tournée des Zéniths en 2026. Bordeaux, Nantes, Toulouse, Lille, Strasbourg et deux Zéniths de Paris les 23 et 24 mai. Les deux sont déjà complets. C'est un vrai comeback populaire, une histoire de fidélité et d'énergie. Ce soir, on va revenir sur son parcours, sur ce que ça veut dire de retrouver son public après toutes ces années et sur la place qu'elle occupe aujourd'hui dans la pop française. On est avec Laurie pendant une heure à La Régulière.
France Inter. À La Régulière. Mehdi Maizi.
Bonsoir Laurie, comment ça va ?
Bonsoir, ça va très bien.
Bon,
merci.
Je suis content de te recevoir. Rapidement quand même si on dit ça à chaque fois, mais Laurie, c'est 8 millions d'albums vendus. C'est pas mal. Plus de 2 millions de spectateurs, 1,1 million de DVD de concerts vendus. On vendait des DVD
à l'époque.
À l'époque. 5 Bercy, plus 16, 7 Zénith à Paris sur la même tournée. Plus de 300 000 livres vendus aussi. C'est beaucoup. Aujourd'hui, on en parlait un petit peu en antenne avant de commencer. Il y a cette tournée, évidemment. Dans quel état d'esprit tu es ? Parce que, au-delà des chiffres, au-delà du fait que ça a été important pour énormément de personnes, ça doit aussi être une forme de démarche aussi de revenir sur scène, même si tu n'as jamais arrêté la musique, on va en parler évidemment. Mais là, il y a quand même quelque chose avec cette espèce d'engouement populaire, oui. De billets vendus. Qu'est-ce que ça représente pour toi ? Quel état d'esprit tu es aujourd'hui ?
Je suis dans un état d'esprit de surprise permanente. En fait, c'est à chaque fois, c'est je n'en reviens pas de ce qui se passe, je n'en reviens pas de l'engouement. Tu vois, c'est en fait, il y a 2-3 ans, j'avais envie de réarranger des anciens titres,
oui.
Et de les faire en duo avec la jeune génération.
Je parle du projet Hyper Laurie.
Voilà, ouais. Les projets Hyper Laurie, et c'était une sorte d'un petit peu d'anniversaire. Donc pour les 20 ans, je voulais faire quelque chose, et on s'était dit on allait faire ça, et ça a été très très bien accueilli. Et à ce moment-là, beaucoup de messages. À quand un concert, à quand une tournée, nous on veut revivre ces moments-là et tout ça. Et puis de plus en plus, ces messages-là, et là je me dis, bah, y a peut-être un truc à faire en fait.
Ouais. Tu parles de Hyper Laurie, sur ce projet, il y avait notamment, enfin tu revisitais des morceaux avec la jeune génération, il y avait notamment une revisite de Sur un air latino.
Il suffit que tout le monde se mette à danser. On est prêt à chanter et tout oublier.
Je ne dis pas de bêtises, c'est le tube de l'été 2003. Et je crois que c'est ton premier numéro 1. Je pensais que tu avais un numéro 1 avant. Alors, ça reste le début de ta carrière à ce moment-là, mais c'est ton premier numéro 1. Qu'est-ce qui représente ce morceau pour toi ? Est-ce qu'à l'époque, c'était important pour toi d'être numéro 1 ou tu calculais pas trop ce genre de choses ?
Écoute, à l'époque, moi, au tout début, ce que je voulais, c'était vraiment faire de la musique, danser, m'amuser, profiter vraiment du moment présent. Et puis, comme je suis quand même assez compétitrice.
Ouais.
Parce que, tu sais, j'ai fait 10 ans de patinage artistique.
Exactement. En sport. D'ailleurs, tu voulais être patineuse à la base.
Voilà. Ouais. En sport-études, et je visais les Jeux Olympiques, mais bon, je me suis pété le genou à 2 mois des championnats de France.
Ouais.
C'est vrai que la première place, j'aime bien.
Okay.
Mais après, en musique, c'est tellement aléatoire. Tu peux être premier une semaine et t'écrouler la semaine d'après, ou alors être toujours dans le top 10, mais pendant des semaines et des semaines. Donc, bon. C'est un peu différent des compétitions, mais c'est vrai que sur un air latino, ça a été un gros gros titre, un de mes plus forts avec Je serai ta meilleure amie. Et il a failli ne pas voir le jour en fait. Ce
ah ouais,
ouais.
Pourquoi?
Bah,
déjà, tu l'as rajouté sur l'album, c'est
ouais,
ça hein.
Ouais, exactement. En fait, on était en pleine réunion marketing avec ma maison de disques et tout le monde, on faisait un petit tour de table pour se dire, ok, moi le prochain single, je pense que c'est ça. Pour telle raison. Donc chacun donne son avis. Et arrive mon tour, et là je dis ok, bah en fait moi je n'ai pas envie d'un single, d'un prochain single qui est sur l'album. Je voudrais un inédit, ça va bientôt être l'été, et j'ai envie de me la péter comme J-Lo. Et là, ils m'ont tous regardé, ils m'ont fait quoi ? Je dis, ouais, un truc latino et tout, avec la Corée et tout ça. Et j'ai vu plein d'interrogations dans les yeux de mon équipe. On me disait, mais qu'est-ce qu'elle raconte encore ? Et puis, Johnny Williams, mon producteur de l'époque, me dit, mais c'est génial, viens, on vient tout de suite en studio. Et on a fait sur un air latino.
Donc à l'époque, tu étais aussi influencé par ces stars américaines, Jennifer Lopez, des gens que tu regardais. Parce que je sais qu'à l'époque, c'était sûrement peut-être aussi une bêtise des journalistes, mais il y avait cette espèce de comparaison avec Britney Spears. Parce que deux jeunes femmes au début des années 2000, mais en fait, toi, même quand on réécoute tes albums, les influences étaient quand même plus larges que ça. Ouais. Il y avait sûrement des morceaux, bien sûr, enfin, j'imagine que comme nous tous, t'as écouté Britney, mais tu regardais aussi des Jennifer Lopez, des gens comme ça, elles t'influençaient aussi, ces artistes-là.
Ah oui, 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 Jennifer Lopez, Shakira, Janet Jackson, Beyoncé, enfin, c'était les Destiny's Child à l'époque.
Ouais, ouais, elle était pas encore partie en solo.
TLC, toutes ces.
R&B en fait, très R&B.
Un peu R&B aussi, ouais.
Alors, tu le disais, tu voulais être patineuse au début, tu as eu cette blessure. À quel moment tu vas vers la chanson finalement ? Parce que quand on regarde un peu, on retrace son parcours, tu as été, été choriste notamment sur des émissions, La Chance aux Chansons, La Planète de Donkey Kong.
Ouais,
alors ça, j'avais oublié l'existence de cette émission et la puissance qu'avait Donkey Kong dans le paysage audiovisuel français à un moment. C'était
vraiment une
star pour les enfants à cette époque-là. À quel moment, toi, tu décides de chanter en fait et de passer de cette début de carrière de sportive à une carrière de chanteuse?
Bah en fait, dès que je me suis fracturé le ménisque à 2 mois des championnats de France, ça a été vraiment le drame de ma vie. Tu sais, quand t'as 15 ans, déjà adolescent, tout devient un drame. C'est, tu vois, ton petit copain te plaque, c'est la fin du monde. Et donc, j'étais vraiment, vraiment pas bien parce que je ne vivais que pour ça. Je vivais patin, j'en faisais 4
heures. Tu t'entraînais déjà énormément.
4 heures par jour d'entraînement et tout ça. Et puis, mes parents ont eu un discours vraiment super. Ils se sont rendus compte que ça n'allait pas. Ils ont trouvé les bons mots pour me relever. Et ils m'ont dit, écoute, voilà, maintenant, réfléchis à ce que tu as envie de faire. Que ce soit un autre sport, une autre activité, n'importe quoi, de la photo, de la peinture. En tout cas, voilà, il y a d'autres belles choses à faire et que tu vas découvrir et apprendre. Et ça va, voilà, ça va te servir pour la vie. Et en fait, là, je me suis posé la question. Je me suis dit, OK, alors, qu'est-ce que j'aimais dans le patinage ? Et en fait, je me suis rendu compte que ce que j'aimais, c'était donner de la magie aux gens.
OK.
De leur faire croire que c'est super facile de faire 3 tours dans les airs, des pirouettes cambrées, sur 1,5 cm de lame avec les pieds en sang, des hématomes partout.
C'est ça la réalité du patinage.
Et surtout être avec des petites tuniques à paillettes sur des musiques, et faire mon show en fait, que ce soit devant des juges ou devant
un public. Et il y a, si je ne dis pas de bêtises, un premier morceau, en tout cas un morceau que tu fais à 15 ans et que tu interprètes au Hit Machine.
Ouais.
Et alors le réécouter, c'est un plaisir car on ressent les années 90, vraiment. Je propose qu'on écoute ça, ça s'appelle « Écoute ton cœur ». J'adore. Mais c'est vraiment les années 90.
Ah,
mais premier degré.
Okay.
Non, sache qu'il n'y a aucun cynisme vraiment dans mes propos. Et je trouve qu'on ressent vraiment, tu sais, des productions qui sont qui ont marqué années 90, effectivement. Et moi, il y a une vraie forme de nostalgie pour ce genre de morceaux. Quand tu fais ce morceau, quand tu l'interprètes, à ce moment-là, dans ta tête, c'est un hobby ou est-ce que tu commences à prendre ça un peu au sérieux quand tu fais ce morceau, que tu le joues à la télévision en plus ?
Écoute, en fait, c'est des portes qui s'ouvrent. Et c'est des opportunités qui sont là et je me dis, mais allez, go, quoi. On y va. Et puis, je passe une première porte et puis je passe une deuxième. Et puis, je me dis, tant que les portes, elles s'ouvrent, autant continuer et voir jusqu'où ça me mène, tu vois.
Je crois qu'un peu après, tu rencontres le producteur que tu as cité, donc Johnny Williams, qui est ton producteur à l'époque. Et il y a ce morceau, Près de moi, qui, si je ne dis pas de bêtises, est refusé par toutes les maisons de disques, que vous allez mettre vous-même sur ton site, qui devient un tube, et ça en fait un des premiers tubes internet, en fait.
Ouais.
À ce moment-là, comment tu vis ce qui se passe ? Parce que c'est, quand on est refusé par les maisons disques, j'imagine que c'est assez décourageant. Comment vous gérez ça et comment vous avez l'idée de le mettre en ligne ?
Alors oui, au départ, on se prend tout plein de portes dans la tronche. Mais en même temps, moi, je suis plutôt du genre, tu me fermes la porte, je vais essayer de passer par la fenêtre. Et si okay. tu me fermes la fenêtre, je vais passer par la cheminée. donc voilà, et puis moi, j'étais tellement sûre, j'étais tellement persuadée de ce titre. Je sais pas, il y avait une petite voix à l'intérieur de moi qui disait vas-y, go. C'est ouais, ouais. Ce titre va changer ta vie. Et c'était les tout débuts d'Internet.
Exactement.
Et donc ouais, on l'a mis sur un site qui s'appelait peoplesound.fr à l'époque, un site okay. musical.
Ok. Et c'était avant les MySpace, avant tout
exactement.
Ça.
Exactement. Ouais. Et en 3 mois, on a eu 15 000 écoutes. Alors aujourd'hui, on fait ça en quelques oui. secondes, mais à l'époque, c'était juste énorme parce que tout le monde n'avait pas d'ordinateur chez soi, tout le ouais. monde n'avait pas Internet, enfin, c'était juste
bien
un
sûr.
Truc énorme.
Et ça ressemblait à ça. Est-ce que tu sens, à ce moment-là, l'engouement de la jeunesse? Parce que tu parlais d'Internet, et à l'époque, Internet, c'est un truc de jeunes, ce qui est moins le cas aujourd'hui, tout le monde, évidemment. Mais est-ce que tu sens ce côté aussi engouement et un peu icône, malgré toi, générationnel? Est-ce que tu commences à le sentir à ce moment-là?
Non.
Non, pas du tout?
Pas du tout.
Ok.
Non, vraiment pas. Là, pour l'instant, c'était un premier single qui marche plutôt bien. Et les gens m'invitent en télé parce que je suis un peu l'ovni qui a été signé grâce à Internet.
Ouais.
Et tu vois, c'était...
Ce morceau t'amène une signature
ouais.
et te...
Ouais. Oui, voilà, exactement. Mais non, pour l'instant, j'ai pas encore ce sentiment d'engouement. Okay. Par contre, ce qui est assez étrange et bizarre, c'est que dès que tu commences à passer à la télé, ou les gens changent, en fait, tu vois. Et tu parlais du Hit Machine tout à l'heure. J'y suis retournée avec ce titre-là. Qui passait beaucoup, le clip passait beaucoup sur M6 et tout et tout. Et en fait, c'était une de mes premières télés. Et j'arrive pour faire l'émission, pour chanter, et j'arrive par l'entrée du public. Parce que bah, moi, j'ai pas l'habitude de rentrer par l'entrée des artistes. Et donc, je suis là à dire pardon, tu sais, aux gens qui étaient là pour faire la queue pour être dans le public. Pardon. Et les gens, ils sont, mais c'est qui elle? Mais qu'est-ce qu'elle fait et tout? Et pour qui elle se prend? Et ces mêmes personnes, une fois que j'avais fait l'émission, que j'avais chanté mon titre, et que je ressors, tu sais, c'était comme si c'était une boîte magique. Je suis rentrée dans la boîte et on a secoué, et hop, je ressors. Et là, c'était les mêmes personnes qui me disaient, mais une photo, super, génial, j'adore ton titre et tout ça. Et là, tu fais,
tu sens que ça change, et que ça change quelque chose dans le rapport aux autres.
En une heure de temps, c'était dingue.
Bon, je propose qu'on écoute un morceau. Alors, en retraçant ta discographie, il y a quand même pas mal de tubes, il faut le dire. Je pense qu'on écoute un morceau qu'on a tous beaucoup écouté forcément à l'époque. C'est le morceau J'ai besoin d'amour.
Ah oui.
Que j'adore. Et on l'écoute tout de suite. J'ai besoin d'amour.
Moi, j'ai besoin d'amour. Des bisous, des câlins, j'en veux tous les jours. Je suis comme ça.
Je te fais des...
j'ai besoin d'amour.
J'ai besoin d'amour, ce classique de Laurie qui est notre invitée ce soir.
France Inter. Mehdi Maizi à la régulière.
Alors Laurie, avant de poursuivre la discussion, j'aimerais qu'on retrace un petit peu la BO de ta vie. Je te pose quelques questions, tu me dis quels sont les morceaux correspondants.
Ok.
Et quel est ton premier souvenir musical à la maison? Qu'est-ce que ça a écouté à la maison quand t'étais petite?
À la maison, maman, elle écoutait Jean-Jacques Goldman, Laurent Voulzy.
Ok. Plutôt chansons françaises de l'époque. Françaises.
Mon père était plutôt jazz.
Ok.
Tu vois, Nina Simone, tout ça.
Ok. Là, alors, je ne sais pas si on peut le dire, mais tu es venue avec ta fille aujourd'hui.
Oui.
J'avais pensé à te poser une question. Quelle est la chanson qui te fait penser à ta fille? Est-ce qu'il y a une chanson que vous avez toutes les deux?
On n'arrête pas de chanter tout le temps. On écoute beaucoup de musique à la maison parce que papa est aussi dans le milieu.
Ouais.
Et voilà. Ça change un petit peu, mais par exemple, en ce moment, c'est Apatapaté de Rosé.
Ah, bien sûr.
Voilà, elle me fait la choré en même
évidemment,
temps.
Évidemment. Ouais. Est-ce qu'elle commence à te ramener des chansons à la maison? Elle est petite, mais est-ce qu'elle a déjà des chansons qu'elle découvre à l'école ou au centre
oui,
de loisirs?
Oui, alors, c'est des,
est-ce
des
que,
chansons.
Est-ce que tu commences à te sentir un peu vieille? Moi, c'est le cas avec ma fille. Mm. Elle ramène des choses, ça y est. J'en suis à ce moment-là, tu vois. Je ne peux plus lui imposer
c'est
la
ça.
Playlist.
C'est ça, ouais, c'est... oui, ma fille, mais c'est surtout aussi mon beau-fils, qui a 14 ans,
okay.
qui là me parle de certains groupes, certains rappeurs, où je suis un peu larguée,
ouais.
Je t'avoue. Toi, sûrement pas, mais moi, parfois,
si,
je suis un peu larguée.
Je commence, malheureusement, ça y est. Tu es en tournée actuellement. Est-ce qu'il y a un morceau que tu écoutes avant de monter sur scène, qui te donne la pêche? Est-ce que tu écoutes de la musique avant de performer?
Écoute, je suis assez cool dans la loge. Par contre, j'ai besoin de rigoler. J'ai besoin d'avoir ma team avec moi et il faut que ça rigole. Et j'ai fait une petite playlist années 2000 pour que quand les gens rentrent dans la salle et attendent, puissent être déjà dans l'ambiance
ah
années
oui,
2000.
Du public.
Ouais, du public. Okay. Ambiance années 2000 et tout. Et donc, quand je suis derrière la scène à 5 minutes de montée, c'est du Diams,
okay.
Voilà, et on chante à fond, c'est du Shakira, c'est du Beyoncé, c'est du J-Lo. Et voilà, ça me donne la pêche.
C'est qui pour toi le visage des années 2000? Est-ce qu'il y a quelqu'un, quand tu penses à un ou une artiste?
Bah moi je vais te dire Britney.
Ouais, je crois que je dirais Britney aussi.
Ouais.
Elle reste vraiment associée à cette décennie,
ouais.
C'est elle. Quelle est pour toi, parce que tu as beaucoup quand même chanté l'amour, est-ce qu'il y a une chanson d'amour que tu trouves plus belle que les autres?
Je te promets, de Johnny.
Ok.
C'est une chanson que j'aime énormément.
Ok.
Je trouve que les paroles, elles sont tellement, tellement justes. Bah, c'est Jean-Jacques hein, qui a écrit les paroles.
Ouais. Encore lui.
Encore lui.
Encore lui.
Qu'est-ce qu'il est fort.
Ouais, bah, il en a écrit quelques tubes.
Ouais. Et puis j'ai eu la chance de la chanter avec Johnny. En télé.
Ok, incroyable.
Donc,
ça.
Franchement, un moment merveilleux. Ouais.
Eh bien, on a un extrait d'ailleurs du. Alors, c'est pas la collaboration que vous avez, mais de cette fameuse chanson, Je te promets, de Johnny.
Je te promets le sel au baiser de ma bouche. Je te promets le miel à ma main qui te touche. Je te promets le ciel au-dessus de ta couche. Des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces. Je te promets la clé.
Ce classique donc de Johnny, un morceau donc choisi par Laurie, notre invité ce soir. Alors si on continue un petit peu à retracer ton parcours, on l'a dit donc il y a un deuxième album qui marche aussi, notamment porté par sur un air latino qui va redonner aussi une vie à cet album. Et c'est aussi une époque où t'es très médiatisé. On parle beaucoup même des relations que tu peux avoir. Enfin les médias, ça y est, tu ta vie ne t'appartient plus,
ouais,
à ce moment-là.
Exactement.
Comment tu vis ça? Parce que même si tu es compétitive et que tu veux être la numéro un, que tu veux marcher, et à ce moment-là, c'est un carton plein. Comment tu vis ce revers de la médaille qui est cette notoriété, les gens qui ne te lâchent pas?
Alors les gens qui ne me lâchent pas, tout ça, franchement c'est plutôt agréable parce que j'ai un public qui est vraiment bienveillant et assez cool. Par contre, ce que je détestais et que je déteste encore d'ailleurs, c'est toute cette presse people,
ouais.
qui elle, c'est vraiment... Ça fout la merde, quoi.
Ouais. Tu vois, est-ce que tu as eu le sentiment qu'ils sont déchaînés sur toi ou pas spécialement, c'est juste qu'ils voulaient tout savoir de ta vie privée ou est-ce qu'il y a eu de la méchanceté à cette époque-là?
Il y a toujours eu de la méchanceté et même pas que pour cette presse-là. Hein. Quand t'es très connu, que tu fais de la musique pop et tout ça, pour certains médias, je m'en suis vraiment pris plein la tête. Mais oui, cette presse-là, ça a été à chaque fois... Tu vois, non, enfin, il y a des moments de vie privée, ça ne regarde personne, quoi. Mmh. Tu vois, et eux, ils vont prendre des photos, ils vont raconter des choses, c'est...
À l'époque, t'as pas le même âge, t'es jeune.
Ah oui,
donc,
oui.
Tu le vis mal, ça, ou tu t'en rends pas complètement compte?
Ah non, je le vis très très mal. Okay. La première fois que j'ai eu affaire à des paparazzi...
Tu voulais les frapper, d'ailleurs, je crois que j'ai vu une interview de toi.
Je les frappe.
Oui, c'est ça.
C'est pas je voulais, c'est je les frappe. Maintenant, ils partent en courant quand je les repère.
T'es sportive, ils ont aucune chance contre toi.
Mais non, je me suis retrouvée pendant 2 jours à pleurer dans ma chambre d'hôtel tellement j'avais vraiment mal vécu la chose, quoi.
Ouais, ouais. Bon, il y a évidemment d'autres albums, mais notamment l'album Attitude avec encore quelques tubes, et y compris le morceau Weekend. Cet album-là, il y a aussi le morceau Positive Attitude. Et quand on le réécoute, c'est intéressant. Il y a vraiment c'est une autre sonorité. On sent que tu vas dans autre chose. C'est une sonorité de l'époque. Et c'est aussi un morceau, même l'expression Positive Attitude est rentrée dans la pop culture avec le premier ministre de l'époque, Jean-Pierre Raffarin, qui reprend ça. Là encore, est-ce que ça t'avait surpris, ça? Le fait d'être finalement devenu presque un élément incontournable de la pop culture de l'époque, en fait. Comment tu vivais ça?
Toujours dans la surprise. Moi, de toute façon, ma vie, c'est que des surprises.
Ouais.
C'est, en plus, ce titre-là, La Positive Attitude, c'est mon ami d'enfance qui m'a écrit les paroles, avec qui j'étais élevée chez ma grand-mère, mes grands-parents. Donc, tu vois, et elle m'écrit un texte, elle me dit voilà, j'ai écrit un truc et tout, et La Positive Attitude, là, je me dis c'est quasiment, c'est tout à fait moi. Je donne ce texte à Johnny Williams, on en fait une chanson, une musique et tout. Et là, quand ça sort, le premier ministre qui fait ma promo.
Complètement.
Donc, je pense que dans le milieu encore politique, j'étais peut-être pas encore très connue. À ce moment-là, c'était fait.
On peut d'ailleurs écouter un extrait de Positive Attitude.
La Positive Attitude.
Un autre une chanson qui sera forcément jouée sur scène.
Oh oui, celle-là.
Évidemment.
Ah on la joue sur scène.
Évidemment,
bien sûr.
Joue sur scène. Un peu après, je crois que c'est en 2007, tu décides toi aussi de devenir ta propre productrice, donc de ne plus de te séparer de Johnny Williams. Est-ce qu'à ce moment-là, c'était aussi important pour toi de maîtriser tes albums, peut-être aussi d'aller dans une autre orientation musicale? Tu vas à un moment, t'as un album qui est aussi orienté vers le zouk, t'as un album plus électronique. Est-ce qu'à ce moment-là, t'as envie de tester des choses et tu sens que c'est peut-être plus compliqué avec ton équipe de l'époque?
Écoute, moi j'aurais adoré continuer avec Johnny parce que on faisait une super équipe, ça se passait vraiment bien et puis il était très fort pour faire des tubes.
Ouais.
Mais il croyait pas à mon
changement,
à mon évolution. Et il me disait mais pourquoi tu veux changer, ça fonctionne très bien, ça se passe très bien, les ados, les enfants t'adorent et tout. Je dis oui, mais moi je ne suis plus en phase avec ce que je chante et je peux pas mentir, c'est pas possible. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on s'est séparés. Mais sinon, moi, j'aurais vraiment aimé continuer avec lui.
Tu sentais qu'il y avait un décalage entre ce que tu étais toi et les gens qui t'écoutaient, qui étaient plus jeunes, même si c'est ton public de l'époque, mais tu sentais que tu étais plus complètement en phase avec les adolescents et toi qui étais une jeune femme, peut-être, qui avait aussi envie de raconter d'autres choses et peut-être pas uniquement de parler de la vie d'une adolescente ou d'une jeune femme.
Oui, à cette époque-là, enfin en tout cas à la fin de l'époque avec Johnny, je sentais que j'avais envie d'aller dans d'autres directions, dans des directions un peu plus électro, des sons un peu plus boîte de nuit, des looks aussi un peu plus différents, un peu plus femmes, parce que oui, effectivement, je grandis, je prends de l'âge, et j'avais d'autres envies. Et après, plein de gens m'ont dit, mais tu vas te planter. Je dis, c'est pas grave, Je préfère essayer, me planter, que continuer de faire des choses que je sais qui ne seront plus en phase avec moi-même.
Quand tu dis boîte de nuit, c'est parce que toi aussi, c'était ta vie à l'époque. tu sortais plus un petit peu.
Ouais. Un petit peu. Alors, je sortais pas trop à Paris parce que...
Impossible.
Mais dans les autres pays, ouais. C'était...
Ouais. Ouais. T'as découvert cette vie-là aussi et t'avais envie que ça se retrouve dans ta musique. Quoi.
Un petit peu, ouais.
Bon. On parle de pop musique. Aujourd'hui, si on parle de pop star numéro une, est-ce qu'on peut dire que c'est peut-être Taylor Swift ?
Aujourd'hui ?
Ouais. C'est là. Bon, bah, je propose du coup qu'on écoute. Ouais. T'aimes bien Taylor Swift ou
j'aime
pas ?
J'aime beaucoup.
Bon, je sais pas si t'as écouté son dernier album.
Écoute, j'ai écouté quelques titres.
Eh bien, peut-être que tu as écouté le morceau qu'on va écouter tout de suite qui s'appelle The Fate of Ophelia, ouais, qui est le morceau qui, je crois, le marche le mieux de l'album. Et elle a d'ailleurs battu tous les records de vente en première semaine. C'est ouais, incroyable. Taylor Swift, tout de suite, dans la régulière.
Quite the pyro, you light the match to watch it blow. And if you never call for me, I might have drowned in a melancholy. I swore my loyalty to me, myself, and I, right before you lit my sky up. A cold bed full of scorpions, the venom stole her sanity. And if you'd never called for me, I might have lingered in purgatory. You wrap around me like a chain, a crown of fire, pulling me into the fire. All that time I sat alone in my tower, you were just haunted. Inside my memory, and only you possess the key. No longer drowning and deceived, all because you came for me.
The Fate of Ophelia de Taylor Swift, morceau donc présent sur son tout dernier album.
France Inter, Mehdi Maizi, à la régulière.
Nous sommes avec Laurie aujourd'hui qui est en tournée actuellement, qui a des dates, on les rappellera à la fin de l'émission, mais aussi en 2026, dates importantes, notamment au Zénith de Paris, dans plusieurs, enfin une tournée des Zéniths tout simplement. Alors bien sûr Laurie, on te connaît pour ta carrière de chanteuse et de performeuse, mais il y a aussi eu dans ton parcours cette envie d'ailleurs, notamment du côté du cinéma, et du cinéma d'action. Et ça, je voulais en parler aujourd'hui, car il y a notamment deux aventures qui sont complètement folles, vraiment. Et la première, nous sommes en 2014, et tu rejoins Les Portes du Soleil, un film qui est réalisé par Jean-Marc Minéo, qui est un film d'action tourné entre la France et l'Algérie, et tu incarnes Nora, un personnage au cœur d'un complot qui mêle espionnage, patriotisme et scène d'action, à tes côtés un casting inattendu. Smaïne, Mike Tyson et toi, en mode héroïne d'action, c'est une vraie surprise à l'époque.
Rien ne m'empêchera de réaliser notre projet. Vous nous avez volé notre pays. On est partis comme des chiens, on revient comme des lions.
Je suis en place. Ces hommes sont dangereux.
Les attentats à la voiture piégée seront perpétrés par nos hommes dans le centre d'Alger. Je détiens, au nom du renouveau de l'OS, des diplomates étrangers. Nous demandons la reconnaissance de nos martyrs. Si nous n'obtenons pas satisfaction,
j'y vais.
Nous exécuterons tous les otages.
Putain, c'est le sosie de Mike Tyson.
Ne touche pas à mon pote, je suis sérieux.
Ça, c'est la voix française, en tout cas, le doubleur de Mike Tyson. Comment tu te retrouves sur ce projet? Est-ce que c'est un moment aussi que tu veux développer cette carrière de comédienne? Mais là, on parle d'un cinéma d'action, sur un film particulier. Comment ça se passe?
Comment je me suis retrouvée là? Écoute, je me suis retrouvée là... j'ai rencontré Jean-Marc Minéo, le réalisateur, en Chine.
Ok.
J'étais invitée au festival du film de Pékin, il me semble que c'est ça, au sud de Shanghai, je ne sais plus. Et on était plusieurs Français... Et on faisait le trajet ensemble, et on était très souvent ensemble, on mangeait ensemble et tout ça. Et on avait vraiment bien matché. Et en fait, il me l'a dit par la suite que ce qui vraiment l'avait fait, avait eu le déclic pour son rôle, c'est qu'à un moment donné, on avait une sorte de bus avec tous les Français qui étaient là. Ouais. Et moi, je sais pas pourquoi, je commence à prendre le micro du bus et à... et à faire une visite, mais complètement déjantée de la ville, par là où on passait. Et j'allais voir les gens, je leur posais des questions. Enfin bref, comme si je faisais un show de comédie. Enfin tu vois, alors pas du tout. Et tout le monde se marre. Et tout le monde. Et là, il me regarde. Et puis d'un coup, il me dit je pense que j'ai un truc pour toi. Et il me rappelle une fois qu'on est arrivé en France. Il me dit écoute, j'ai un rôle et je pense vraiment.
Mais pourtant, le rôle, c'est un rôle qui est plutôt sombre, qui n'a rien à voir avec le côté drôle de ce que tu as pu faire dans le
film. Exactement, mais je ne sais pas. Écoute, il s'est dit, la fille, elle ne se prend pas la tête. Elle est cool, elle est sportive. Voilà.
Et est-ce que ce moment-là, parce qu'on le verra après, il y a presque une incursion un peu dans le cinéma, en tout cas, d'action. Est-ce que c'est ce que tu avais envie de faire ou c'est vraiment du hasard? Mais comme tu es sportive, etc., est-ce que tu avais envie d'incarner ça au cinéma? Ou c'est juste...
Moi, j'adore.
Ok.
Moi, j'adore, en fait, les scènes d'action. Pour moi, c'est juste des chorégraphies à mettre en place et je trouve ça génial. J'ai fait plusieurs années de kickboxing j'ai commencé le kickboxing grâce au paparazzi.
Oh, tu voulais vraiment te les faire. Hein.
Je voulais vraiment me les faire. Et tu vois, au final, ça m'a servi. mais ça a été... moi, j'adore ça. Franchement, j'adore.
T'as eu des scènes avec Mike Tyson ou pas? J'ai pas eu la chance de voir le film.
Non, j'en ai pas eu.
De toute façon, je crois qu'on le voit très peu dans le film,
Très peu, ouais. Donc, c'était un petit guest.
Alors, l'année suivante, tu apparais dans Dragon Blade. Un film réalisé par Daniel Lee. Non, mais c'est encore fou. Un blockbuster sino-hongkongais qui réunit un trio dingue. Jackie Chan, John Cusack, Adrian Brody.
Oui.
Et toi, donc, un quatuor, un film d'époque, pardon, tourné en Chine, dans le désert du Gobi, avec des moyens énormes. Et même si c'est un second rôle, c'est une expérience de cinéma que j'imagine complètement différente.
As soon as my army settles in at the borders, the entire Silk Road region belongs to me. Pledge your allegiance to me, and I will let you live.
I'm Lucius, commanding general.
Tiberius is a treacherous man.
I want to help you.
Et là encore une question. Comment tu te retrouves sur ce projet?
Alors écoute, c'est une longue histoire. En fait, j'avais un agent en Chine pour tout ce qui est fiction, cinéma.
Mais t'avais quand même un lien avec... Ça fait deux fois que tu me parles de la Chine, donc t'avais un lien là-bas.
Ouais, je voyageais beaucoup là-bas, j'avais des agents là-bas, on avait pas mal de projets là-bas.
Qui est un cinéma aussi qu'on connaît moins en Europe, en Occident, mais énorme, évidemment. Il y a énormément de productions chaque année qui cartonnent.
C'est fou, et d'ailleurs, je commençais à prendre des cours de chinois, je commençais à parler chinois et tout ça, j'étais vraiment à fond, je me suis dit, un jour, je vais habiter là-bas.
Ouais, ok. T'étais intéressée à la base par cette culture ou...
Ouais, j'adorais. J'adorais. Et en fait, donc, mon agent m'envoie un mail en me disant, voilà, il y a un très gros film qui est en train de se faire. Ils cherchent une occidentale. On t'a proposé, ils aimeraient vraiment te rencontrer, mais ils vont aussi rencontrer une Australienne avec qui le réalisateur a déjà travaillé. Et donc, je dis, bah, trop bien, dans 3 semaines, j'arrive à Pékin pour le festival. On organise des rendez-vous et tout, c'est trop bien, super. Sauf que bah, pendant 3 semaines, à chaque fois, c'est, ah bah oui, bah non, là, il faut changer les billets, puis là, il est plus plein, là, là, enfin, donc bref. Un peu galère. Et à la veille de partir, je reçois un mail et je comprends qu'en fait, l'autre fille a déjà été prise. Et là, mon agent me dit, bon, écoute, c'est pas grave, il y aura d'autres choses et tout ça. Là, là. Pareil, encore une fois, ma petite voix me dit, non, lâche pas l'affaire. Donc, je lui dis, non, je ne lâche pas l'affaire. Je veux les rencontrer, en fait. Donc, même si c'est 1 heure, 5 minutes, voilà, je veux quand
tu
même...
Tu croyais en ton énergie, en ta force
ouais,
de persuasion.
Je sais pas, je te jure, j'avais une petite voix comme ça qui me dit, go. Donc, elle me dit, ok, bah, pas de souci, viens à Pékin et le lendemain, je viens te chercher en taxi et on part. On prend un avion, on fait 3 heures d'avion et 3 heures de voiture pour se retrouver en plein milieu de la Chine. Je ne pourrais même plus te dire le lieu tellement c'est un petit point perdu. Et là, j'arrive et je me retrouve dans un hangar mais immense. Et c'est une fourmilière. Ça bossait dans tous les coins, ça a créé des portes, des trucs, des décors en bois. À côté, t'avais des essais de costumes avec des tissus magnifiques, des essais maquillage coiffure, des gens pour la prod et tout, sur les ordinateurs et tout ça. J'étais, waouh, mais où je suis en fait? Je rencontre la productrice et le réal. Ils s'excusent, oui, désolé, on t'a fait changer plein de fois tes billets, tout ça, mais on est désolé, voilà, ça sera pas toi cette fois-ci. Donc, ok, d'accord, merci, c'est pas grave. Et puis au final, on papote et je leur fais comprendre que je parle chinois, que eux, ils me disent, on parle de la France, enfin bref, ça marche très très bien. Et je sens le réal quand même qui me regarde avec un petit air un petit peu intéressé. Ils me font visiter leur hangar, là, et puis je vois des photos et je vois... En essayage costume, Adrien Brody, John Cusack, Jackie Chan, je fais oh là là, tout ce qui me passe sous le nez. C'est, j'étais vraiment dégoûtée, mais je me disais, ok, bah maintenant vous savez que je suis là, que j'existe pour vos prochains films. En tout cas, voilà, vous n'avez pas voulu de moi pour celui-là, je suis là pour le prochain. Et là, le réal revient, il parle à la productrice, et la productrice vient nous voir en disant, écoute, ok, le rôle pour lequel on avait pensé à toi a été pris, mais il y a un autre rôle qui, à la base, était pour un homme, qui est le roi de Perse. Mais c'est lui qui a un rôle assez important parce que c'est lui qui va faire en sorte que la paix revienne sur... Voilà, je te raconte pas, je te spoil pas si tu veux regarder le film. Et en final, le réalisateur se dit que si c'était une femme, ça serait beaucoup plus intéressant. Et il aimerait que ce soit toi.
Incroyable.
Et donc au final, je repars avec un rôle qui était même plus important... que celui pour lequel
comme quoi,
je devais
des fois,
postuler.
Ça vaut le coup de se faire, de se taper 3 heures d'avion,
3 heures de voiture, se retrouver en plein milieu de la Chine.
Incroyable.
Et voilà, comme quoi il faut toujours s'écouter, puis aller au bout des choses, jusqu'au bout des choses. Tu vois, il n'est jamais trop tard. Voilà.
Très bien, mais en tout cas, avis aux amateurs. N'hésitez pas à aller regarder ce film, Dragon Blade, avec Laurie, notre invité. Laurie, tu le disais, évidemment, tu as sorti des tubes dans les années 2000. Avant tes concerts, tu as une playlist années 2000. Je propose un petit quiz années 2000. Mais ce n'est pas un quiz. Non, ce n'est pas un quiz. T'inquiète pas, tu dois choisir entre deux éléments propres aux années 2000.
Okay.
Et on commence, et je pense que je sais ce que tu vas choisir, mais Britney Spears ou Christina Aguilera?
Oh là là. Ah là, c'est dur, parce que...
Ah, je pensais que ce serait moins dur.
Non, Britney, j'adorais. Et Christina, pour toutes ces... Quand même, c'était beaucoup plus urbain.
Ouais.
Moi,
mais t'aimais bien, en fait, le R&B, le rap. T'avais ce truc-là. Hein, parce que c'est vrai qu'elle avait... T'as moi, le morceau avec Redman, à l'époque, qui cartonnait Christina Aguilera. On sent que t'étais attirée par ça.
Ouais. Et à la danse, avec mes copines, c'était surtout sur du Christina qu'on faisait nos chorés.
Donc
Bah, je dirais Britney quand même, Britney. Parce que sans elle, je serais peut-être pas là en fait. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, non, c'est vrai.
Bah ouais. Hein.
Kyo ou Tokyo Hotel?
Kyo.
Kyo, français. Mmh. Cocorico. Mmh. Star Academy ou Popstar? C'était l'époque aussi, tu sais, c'est la décennie des télécrochets. Enfin, il y en a eu avant, mais en tout cas, il commence à y en avoir beaucoup. Télécrochets slash télé-réalité, en fait, qui arrivent. Est-ce que tu les regardais ? Est-ce qu'il y en a un que tu aimais plus que... La Nouvelle Star aussi arrive dans cette décennie.
Oui, bah oui, oui. Écoute, je regardais et je te dirais Star Academy. À l'époque, je les ai toutes faites, tous les ans.
Okay.
Et parfois j'avais l'impression d'être une élève parce que j'avais le même âge que les élèves.
Ouais.
J'allais au château, tu sais, à prendre la Corée du Prime et tout. Et,
Oui, tu y allais en tant qu'invité, toi tu performais.
J'y allais en tant qu'invité, mais à chaque fois, je me faisais des copines là-bas. Quoi.
T'aurais pu candidater, être dedans ?
Ah, franchement, oui.
Ouais.
Ouais.
Est-ce que t'étais plus MSN ou Skyblog ?
MSN.
Ouais,
ouais,
avec les Wiz, des Wiz.
Ouais, exactement.
C'était important à l'époque. Hein.
C'était important, c'était un canal de communication et tout. C'était...
Est-ce qu'à ce moment-là, c'est aussi la décennie, mine de rien, où évidemment Internet prend le pouvoir et on commence aussi à partager de la musique. On parlait tout à l'heure rapidement de site, dont j'ai oublié le nom sur lequel tu avais mis...
PeopleSound.
PeopleSound, exactement. Puis après, il y a eu des choses comme MySpace. Et puis le début des plateformes de streaming aussi dans cette décennie.
Ouais.
Deezer, Spotify sont lancés, je crois, en 2008. Est-ce que c'est à ce moment-là aussi, tu te rends compte aussi que les gens s'intéressent à ta musique, ils la partagent, parce qu'avant, dans les années 90, on ne se rendait pas forcément compte de ce que hormis les chiffres de vente. Est-ce que là, tu commences aussi à échanger avec les fans ? Est-ce que ça arrive ou pas trop à ce moment-là ?
Oui, on commence un peu à échanger. Il commence à y avoir un vrai dialogue qui se fait aussi. Il y a moins de barrières.
Ouais.
Tu vois ?
Tout à fait. Ouais, c'est le moment où ça tombe un petit peu.
Ouais.
Ouais. Sur un air latino où je serai ta meilleure amie.
Ah oh là là, là tu... Allez, je dirais ta meilleure amie.
Bah, c'est parfait. J'avoue que ça m'arrange que tu le choisisses parce que je l'avais prévu.
Bah, j'avais tant
prévu
mieux,
ce morceau. Donc merci. Est-ce que pour toi c'est ton plus gros hit ça ? Celui dont on te parle le plus aujourd'hui ?
Oui, c'est celui-là.
C'est celui-là.
Ouais.
Qui est le plus iconique peut-être.
Ouais.
On parlait de Star Academy juste avant. Et bien, je propose qu'on écoute un morceau d'une des candidates passées de la Star Academy. C'est Marguerite avec le morceau Les Avions qui est extrait de son EP Grandir.
Que c'était fini, on est quand même parti dans des gens loin de Paris. Est-ce qu'on sera plus joli? Se sauver dans les rires, dans la nuit, dans un lit. Ce monde est pas poli, t'étais le seul gars gentil. Poussière sous le tapis, café à refroidi, amour à refroidi. Je crois qu'on s'est tout dit. On s'est pas vu s'affaiblir, c'est facile de se mentir. On se croit toujours solide jusqu'au jour de la colline. Est-ce qu'il y a des avions qui restent dans le ciel et ne tombent jamais? Est-ce qu'il y a des avions qui traversent la grêle et les turbulences? Faudra refaire tous les murs, changer les photos, les peintures, faire une croix sur le futur. À deux, chez moi c'est pas bien rangé, dans le poulet se les clés, plus de traces sur l'oreiller. C'est mieux, et puis faut que je te rende tes fringues. Ce sera la dernière étreinte. Je ferme la porte et je me blinde. Adieu, la musique était jolie, mais le texte mal écrit. Des fausses notes dans la partition. Est-ce qu'il y a des avions qui restent dans le ciel et ne tombent jamais? Est-ce qu'il y a des avions qui traversent la grêle et les turbulences?
rester dans le ciel et ne tomber jamais. Est-ce qu'il y a des avions qui traversent la grêle et les turbulences?
Marguerite, les avions, et donc c'est présent sur son EP Grandir.
Mehdi Maizi sur France Inter.
Laurie, c'est l'heure des recommandations. Tu m'en as envoyé plusieurs, et notamment une série qui est énormément citée dans cette émission. Vous êtes nombreuses et nombreux à l'apprécier. C'est The White Lotus. Donc, je ne sais même pas si c'est The White Lotus ou White Lotus, d'ailleurs, peu importe, White Lotus en tout cas. Qu'est-ce qui t'a plu dans cette série qui a marqué énormément de gens ces dernières années?
Bah, déjà, rien que la musique, tu vois.
Ouais, c'est iconique. Hein. Ça, c'est le thème de la saison 1.
Écoute, je trouve ça tellement décalé, tellement pop coloré, c'est drôle, les personnages sont fous, c'est bien écrit. Au début, j'ai regardé la saison 1, je me suis dit, mais où est-ce que ça va? Tu sais, t'es là, c'est tellement... c'est un ovni, en fait. Et j'ai catché tout de suite.
Aujourd'hui, justement, sur la partie comédie, cinéma, est-ce que toi, t'as toujours envie d'investir ça? Bien sûr, ça reste... t'as des envies particulières là-dessus, à l'avenir?
J'ai des envies, et là, j'ai une nouvelle casquette depuis pas longtemps, qui est la réalisation.
Ouais.
Et donc, en début d'année, là, j'ai réalisé un mystère, qui est un unitaire pour France Télé, qui va être diffusé en début 2026.
Okay.
Et écoute, ça s'est très très bien passé. Okay. France Télé sont très contents, ils sont très envie qu'on retravaille ensemble.
Très bien.
Donc, franchement, j'adore.
Donc ça, c'est une nouvelle casquette que t'avais pas avant. Qu'est-ce qui t'a donné envie justement de passer de l'autre côté? Parce qu'on t'a toujours vu performer, on t'a toujours vu devant la caméra. À quel moment t'as eu envie de passer derrière?
J'ai toujours aimé la mise en scène. Déjà sur scène, parce que même les shows d'époque, tous mes concerts à l'époque, c'était moi qui faisais les mises en scène. Et j'ai toujours aimé ça, en fait, quand j'étais sur des tournages de séries ou des tournages de films. Quand j'avais des séquences où je n'étais pas en train de jouer, j'étais toujours, j'étais jamais dans ma loge, j'étais toujours derrière la caméra, derrière avec le réal, à poser 15 000 questions au chef-op, au technicien, mais pourquoi tu fais ça, et pourquoi tu fais ci, et puis au réal, mais pourquoi tu cadres comme ça, parce que tu vois, pour telle émotion, c'est bien, ok. Et puis j'ai commencé à réaliser des clips vidéo, pour ou moi, ou d'autres chanteuses, et puis un jour j'ai fait un court-métrage. Et puis après, j'ai envoyé mon court-métrage à des prods. Et puis j'ai fait des épisodes pour une série Demain nous appartient sur TF1. Et puis voilà, petit à petit.
C'est l'évolution logique finalement.
Ouais, évolution logique.
Ton parcours,
J'aime ça. Donc j'ai fait une formation à l'INA, du cadre et la lumière. Enfin, tu vois, j'essaye d'apprendre encore plus, parce que j'ai vraiment appris sur le tas. Mais j'essaye de me former encore plus. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime.
Ta recommandation musicale, c'est l'album Industrie Plante de Mick.
Oui.
Mick, qu'on a reçu dans cette émission pour cet album, qu'est-ce qui te plaît dans son œuvre, chez cet artiste?
Son univers.
Ouais.
Son naturel, son franc-parler, que ce soit en interview ou dans ses chansons. Je trouve qu'elle arrive à faire passer des messages avec des images. Moi, par exemple, Roger Rabbit, sa chanson, elle me fout les poils. La première fois que je l'ai entendue, j'ai fait quoi? Mais attends, j'ai réécouté, je fais... Elle parle bien de ça, en fait.
J'ai eu la même réaction.
Là, tu vois.
J'ai écouté ça avant de la recevoir. Je me dis, est-ce qu'elle parle vraiment de ça? Est-ce que je lui parle de ça? Mais je voulais pas être...
Ouais.
À côté de la plaque non plus.
Ouais,
en fait.
Carrément, tu vois. Je la trouve juste géniale. Voilà.
Est-ce que du coup, on en parle un petit peu en antenne, mais il y a aussi toute une nouvelle génération de chanteurs et de chanteuses qui est là, notamment en France, notamment chez les femmes. Est-ce que tu les suis? Est-ce que parfois tu les connais ou tu en fréquentes quelques-unes?
On se croise sur des plateaux télé, parfois, de temps en temps. Et puis, mais c'est vrai qu'il y a une jeune génération là, qui arrive et elles sont plutôt cool.
Il y a du talent.
Effectivement. Bon.
Laurie, on passe un bon moment, j'espère en tout cas que tu passes un moment.
Mais oui.
Mais c'est l'heure de la question qui tue.
Oh là.
Eh oui.
Oh là. J'ai peur.
Tu vas voir, ça va. On a parlé de pop, tu es une pop star. Quelle est pour toi
la plus grande pop star de tous les temps.
Voilà, là. J'ai envie de te dire quelqu'un tout de suite, mais...
Bah vas-y.
Ouais, mais est-ce par rapport à ce qu'il a fait, c'est pas bien, tu vois. Tu vois de qui je veux dire.
Bah, c'est Michael Jackson,
voilà.
Évidemment, de la plus grande pop star de tous les temps. Oui, oui, je vois, oui.
Mais voilà, donc voilà, on sait plus trop ce qu'on doit dire, ce qu'on doit pas dire, ouais. Mais c'est pas bien ce qu'il a fait, mais après, voilà.
Mais en tout cas, je crois aussi qu'au début de ta carrière, c'était quelqu'un... Évidemment, tout pour s'en garder, mais que tu regardais, notamment dans l'aspect à la fois la musique, mais aussi le show, c'était une forme de référence que tu avais.
Exactement, ouais, ouais. Je connaissais tous ces shows par cœur, j'analysais tout, j'ai dit ok, donc là il a fait 4 titres up-tempo, là il fait une balade, tu sais, franchement j'analysais tout.
Ah oui, sur même les déplacements. L'enchaînement des morceaux dans le concert.
C'est très important, les enchaînements des morceaux.
Ah ouais,
concert. Exactement. Enfin, c'est ce qui va donner le rythme à ton concert.
Il faut arriver avec quelque chose de doux ou de toi t'arrives comment?
Ça...
Si tu veux pas trop spoiler, mais comment? Est-ce que t'arrives directement avec un tube, plutôt un truc doux? Comment? Quel conseil
Écoute,
tu donnes?
Écoute, tout dépend de ce que t'as envie de raconter. Moi, j'avais envie de raconter quelque chose aussi, mais tout dépend de l'énergie que t'as envie de donner, de ton show, de ton style musical.
Ouais.
En tout cas, ouais, faut que tu t'écoutes, mais c'est très très important.
Alors, forcément, on parle de cette tournée qui se passe bien, on parle des Zéniths à Paris qui sont complets. Je suis obligé de poser la question, est-ce que toi, ça te donne aussi envie de ressortir de la musique, peut-être de retourner en studio, de faire des inédits sans forcément parler d'album, mais est-ce que tu as cette envie-là de créer des nouvelles choses?
Oui, ouais, j'ai envie de créer, bien sûr que ça titille, bien sûr. Voilà, peut-être pas forcément un album ou un EP tout de suite, mais c'est vrai que un ou deux inédits pour les Zéniths, ça serait déjà peut-être pas mal.
Ouais. Tu travailles sur. Ça veut dire que tu travailles un peu dessus.
On y réfléchit.
Mais ceci dit, ça, c'est une vraie question sur, tu sais, le rapport qu'il peut y avoir entre d'un côté un public qui vient parfois pour le souvenir, pour la nostalgie, et qui peut passer à côté parfois de nouvelles choses. Je parle. De toi, mais comme de n'importe quel artiste, tu sais, qui est très très marqué. Est-ce que t'as aussi, tu peux avoir cette crainte-là de, ok, vous m'aimez pour ces 4 albums, mais est-ce que vous allez encore m'aimer pour ce que j'ai à dire aujourd'hui? Est-ce que tu peux avoir cette crainte-là?
Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, mais après, par exemple, tu vois, là, je vois pour les tournées, les concerts qu'on fait en ce moment, il y a beaucoup d'anciennes chansons. Et j'ai mis aussi des chansons qui sortaient de des albums électro, que j'ai sortis un peu plus tard. Des titres qui ne sont pas forcément sortis en single, mais qui me plaisent beaucoup et qui, je sais, plaisaient aussi à tous ceux qui avaient écouté. Et il y a plein de personnes, quand je les vois après, dehors, en dédicace, qui me disent « Mais ces titres-là, ils sont super, il faut les sortir !» Je dis « Mais ils sont déjà sortis, en fait !» Tu vois ? Et en fait, ça permet de faire découvrir aussi des titres qui étaient moins connus. Et c'est ça aussi qui est sympa.
Oui, c'est ce qu'on en parlait aussi sur l'antenne. Parfois, tu peux avoir... T'as pu en avoir marre à un moment qu'on te ramène toujours au même tube, alors que toi, t'avais finalement plein d'autres choses aussi à donner. Et c'est des morceaux qui sont présents sur ces albums, mais voilà, parfois, les tubes, ils prennent toute la place, quoi.
Exactement. Exactement. Bon.
Laurie, en tout cas, c'était un vrai plaisir de t'avoir aujourd'hui. Je rappelle donc que t'es en tournée actuellement, puis une tournée des Zéniths en 2026. Bordeaux, Nantes, Toulouse, Lille, Strasbourg et 2 Zéniths de Paris les 23 et 24 mai qui sont complets.
Ouais.
Donc,
mais on va certainement rajouter quelques petites dates, quelques petits Zéniths.
Quelques petites. Ok. Ouais. Ah, des Zéniths en plus.
Ouais.
Dans d'autres villes.
Ouais. Okay. Peut-être.
Sûrement. Très bien. Bon, merci beaucoup en tout cas. Et merci aux personnes qui ont préparé cette émission. Alexia Lacour, Redouane Tella, une émission réalisée par Gaëtan Colli. La programmation musicale est signée Jean-Baptiste Audibert. À la technique ce soir, c'était Alix Barrois et Jérôme Ragano. Merci aux équipes web et vidéo. Demain, nous consacrerons une émission à l'histoire de MTV, la chaîne musicale, entre autres, au départ, qui était une chaîne musicale en tout cas. Pour découvrir ou redécouvrir nos émissions, abonnez-vous sur l'application Radio France.